D'abord, trois remarques. Je voulais remercier l'ENSIB et les élèves conservateurs qui m'ont invité, enfin, qui sont plus élèves vraiment. Je souhaitais aussi préciser que j'interviens en mon nom propre et pas au nom de l'ONU, donc c'est pas l'ONU qui parle quand je vais dire ce que je dis. Normalement, on a un droit de réserve. Moi, je suis à la retraite depuis le 1er février parce que il y a une date limite à l'ONU. Si on est rentré après 93, à 62 ans, on quitte, c'est automatique. Voilà, donc vous connaissez mon âge. Et enfin, je suis pas vraiment spécialiste des questions européennes. J'ai une formation plus philosophique et informatique que strictement historienne. Mais bien sûr, de par les fonctions, de par tout ce que j'ai eu l'occasion de faire, l'histoire m'intéresse également. Et j'ai participé à plusieurs études quand j'étais, après avoir dirigé le bureau de l'informatisation des bibliothèques, c'était une autre vie, mais après j'ai aussi travaillé dans le secteur privé et j'ai mené des études en tant que consultant et directeur de projet pour la Commission européenne et pour le Parlement européen. Donc ça m'a donné un peu une vision à la fois intérieure et extérieure des institutions européennes. Voilà. Quand vous avez pris contact avec moi, vous m'aviez posé la question suivante, dire que ce serait bien d'avoir une problématique sur en quoi la politique de l'Union européenne en direction des bibliothèques peut-elle contribuer à la construction de l'identité culturelle européenne. C'était posé comme ça. Et maintenant, le titre de cette journée, c'est « Identité culturelle européenne au pluriel, plus au singulier et bibliothèque ». Et c'est vrai que ça m'avait un peu interrogé, parce que pour moi, c'est très ambigu, cette notion d'identité. Et elle renvoie à pas mal de problématiques, et puis aujourd'hui, on ne sait que trop, quand on parle d'identité, ça renvoie parfois à des implicites assez contestables, qui peuvent aller jusqu'à des replis sur soi et au rejet de l'autre, ce qui est évidemment pas l'idée qui nous anime. Donc je vous propose une démarche en trois temps. D'abord, revenir un peu, mais vous l'avez très bien présenté, donc il ne faut pas être trop long, c'est la question de l'identité européenne, vous avez cité Jaume, par exemple. Ensuite, on peut reparler avec quelques repères historiques de ce que l'Europe a fait pour les bibliothèques et la politique culturelle européenne, sans trop m'étendre. Et puis enfin, cerner quelques-uns des enjeux qui touchent les bibliothèques, et notamment dans le domaine du numérique. Voilà. Donc sur l'identité européenne, bon, comme vous l'avez rappelé, c'est souvent associé à une idée un peu fixiste, même pourquoi pas passéiste. Et en même temps, la notion d'identité, si on y réfléchit bien, renvoie à des appartenances et pas seulement des appartenances héritées, mais c'est aussi des appartenances petit à petit qu'on construit. Donc si vous prenez en termes d'une personne, par exemple, l'identité, ça peut être sa famille, sa profession, sa culture, sa religion, son système de valeurs, c'est un ensemble de choses. Si on prend au niveau du groupe, c'est pareil, je ne vais pas refaire une sociologie des groupes, mais on a cette question-là. Alors si par rapport à ça on regarde l'Europe et son histoire, même très vite, on se rend compte que les changements qui ont affecté l'Europe tout au long de son histoire font qu'il n'est pas du tout aisé de la définir. Quand on parle d'Europe, il suffit de voir les difficultés qu'il y a aujourd'hui à en donner les limites. Bon, d'un côté, effectivement, avec l'océan, c'est facile, mais il y avait même je ne me rappelle plus, qui disait que l'Europe, en fait, c'était juste la pointe avancée de l'Asie vers l'Amérique, par exemple. Donc c'est une façon de voir l'Europe qui n'est pas forcément habituelle. Et l'Europe n'a pas de frontières clairement définies que le côté oriental. C'est Edgar Morin qui, dans Penser l'Europe, disait « On ne peut définir l'Europe historique par ses frontières géographiques » et soulignait l'absence de limites orientales claires. Il disait également « On ne peut non plus définir l'Europe géographique par des frontières historiques stables et closes ». Donc le penseur de la complexité notait que l'Europe n'est devenue une notion géographique que parce qu'elle est devenue une notion historique. Donc vous voyez que ça complexifie tout de suite la question quand on parle d'Europe. Quant à la culture, c'est une notion tout aussi complexe et ses définitions sont nombreuses. François Mattei distingue 7 sens différents de culture. Il parle de culture humanis, qui est l'activité de création de l'esprit qui travaille sur lui-même afin de produire des fruits, quand on produit. Il parle de culture au sens anthropologique, qui renvoie à l'organisation des sociétés humaines, de culture scientifique, de culture technologique, de culture économique, de culture politique, qui renvoie aux facteurs déterminants des institutions démocratiques, et même de culture médiatique, en disant que c'est une culture de masse sans doute la plus éloignée de la culture classique. Or, pourquoi dire ça? Simplement pour insister sur le caractère multidimensionnel de cette notion de culture. Alors, je ne vais pas faire le bilan ici de ce qui pourrait être la culture, paysage culturel et le patrimoine européen qui a été évalué et réévalué par tant de nombreux auteurs. Hein. Certains vont se revendiquer de toute l'Europe des Lumières, de la philosophie, enfin, etc. On n'a pas le temps de faire ça. Il y a eu énormément de grilles de lecture sur ces questions-là. Ce qu'on peut quand même souligner, c'est que l'Europe s'est constituée dans un espace de tourbillon historique. Et aujourd'hui est un univers à la fois complexe et contradictoire, qui renvoie à des sources diverses, grecques, latines, juives, chrétiennes notamment, à des valeurs de spiritualité, d'humanisme, de rationalité, de démocratie. Il y a des conditions, par exemple, pour faire partie de l'Europe même, de ce qu'on appelle la Grande Europe, représentée par le Conseil de l'Europe, qui a 47 États membres, hein, par rapport à l'Union européenne, qui n'en a que 27. Hein. Et malgré tout, ces valeurs n'ont pas empêché, n'empêchent toujours pas l'Europe d'avoir connu et de connaître encore l'arbitraire, le racisme, l'injustice et même, il y a une quinzaine d'années, la barbarie. Alors, aujourd'hui particulièrement, vous venez de le faire, j'en suis touché, rendons hommage à Georges Semprun qui, dans son dernier ouvrage, écrivait dans Une tombe au creux des nuages, hein, qui est un titre repris d'un vers de Celan, hein, Paul Celan, il écrivait « L'Europe n'est pas le résultat épuré d'une idée philosophique, elle est le résultat épais, dense, parfois opaque et tragique, de longs siècles d'affrontements et de brassages, d'invasions et de résistance. » Donc vous voyez que quand on parle de comme ça, on voit que l'Europe, c'est pas quelque chose de si simple. Et dans cette complexité, la diversité religieuse n'est pas la moindre. Elle s'est exprimée, bien sûr, à travers les guerres de religion et aboutit aujourd'hui à des situations très diverses. Prenons même simplement que le cas de la religion et la laïcité. Les rapports entre l'Église et l'État dans les 27 pays de l'Union européenne sont très différents. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je renvoie au travail de Pierre Bréchon, de l'Institut d'études politiques de Grenoble, sur ces questions, mais je vous assure qu'on voit qu'il y a des différences. Alors on peut classer après ces États en trois États, en trois formes de relations par rapport à la religion, mais je ne m'étends pas. Et si on prend le système de croyance, là aussi, on peut remarquer des évolutions dans tous les pays. Bon, les sociologues comme Bréchon et d'autres considèrent qu'on va en Europe vers un mouvement dit de sécularisation dans tous les pays. Mais cette évolution est elle-même complexe parce que les croyances se maintiennent, mais c'est sous des formes assez floues. Hein. Si vous prenez les enquêtes d'Eurobaromètre ou d'autres, la religion devient progressivement davantage un grand repère plutôt qu'un univers dans lequel on se coule comme c'était le cas avant. On a des pays où à 98% les gens se disent de telle ou telle religion, mais la pratique réelle, c'est 20%. Donc les gens ont une identité, une appartenance par rapport à un système de valeurs, mais c'est plus du tout sur le même mode. Bon, après, il faut nuancer par rapport, même pas à des pays, même à des régions. Hein. Donc, je passe très vite et j'essaierai de conclure de ces remarques bien trop rapides que l'identité européenne est davantage un processus en construction autour de sa diversité et de valeurs qui doivent être réaffirmées et mises en pratique plutôt qu'un véritable acquis. C'est quelque chose qui se construit, vous l'avez dit dans votre introduction. Voilà. Alors, la promotion de l'identité culturelle européenne, elle a suivi un très long parcours. On n'a pas avoir le temps de le développer sur le plan historique, mais au départ, hein, on aurait pu faire référence au Conseil de l'Europe, hein, créé en 1949, mais au départ, c'était vraiment la recherche de la paix. Il y a eu le traumatisme des grandes guerres, et après ces guerres, il faut absolument construire la paix. Et pour construire la paix, Il faut passer par la culture, en gros, c'est ça. Et c'est assez étonnant, parce que même si vous visitez le musée de la Société des Nations qu'on a rénové au Palais des Nations à Genève, et qui dépend de la bibliothèque que vous avez évoquée, on a mis dans une des vitrines le petit ouvrage de Sigmund Freud, Pourquoi la guerre, hein, qui a fait une correspondance entre lui et Einstein. Einstein avait posé la question, pourquoi la guerre, hein, en quelques pages, et Freud avait tenté de répondre à cette question. Je rentre pas dans les détails, mais le dernier ligne de Freud, c'est, il explique la violence, ou ça, cette théorie, mais il dit pour finir, bon, tout ce qui travaille, tout ce qui sait, c'est-à-dire tout ce qui est fait, tout ce qui travaille en faveur de la culture, travaille contre la guerre. Ça, c'est écrit en 1932, hein, d'accord? Bon, après, on peut épiloguer, parce que selon la définition, parce que dans la même vitrine, on a mis une petite photo à côté, exprès, de l'ouvrage, où on voit Goebbels, qui est en visite à la Société des Nations, et qui était le ministre de la Culture, entouré de la délégation allemande. Et donc, on voit que ça dépend ce qu'on met derrière les mots, que c'est pas forcément si simple. En même temps, l'idée des fondateurs de l'Europe, c'était bien que si on développe l'éducation et la culture, on développe également les valeurs d'ouverture à l'autre, de démocratie, etc. Bon, je ne m'étends pas. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cet héritage européen, malgré les difficultés que j'ai rappelées, on veut le préserver, on veut y donner accès. Et c'est bien le sens des actions qui sont menées. Il y a quand même un dernier point qu'il ne faudra pas oublier par rapport à l'Europe, c'est sa diversité linguistique. C'est un facteur de richesse, bien sûr, mais aussi d'antagonisme, parce que cette diversité en matière de langue, je peux vous le dire encore plus en étant venu, mais non, je pense que c'est plus facile à venir que dans les institutions européennes, parce que les institutions européennes reconnaissent les 23 langues officielles. C'est-à-dire que pour qu'un texte officiel législatif soit validé au niveau européen, il faut qu'il soit traduit dans les 23 langues. Sinon, il n'a pas valeur, hein, faut le savoir. C'est pas le cas à l'ONU, bon, heureusement, parce que centaines de langues qui existent dans le monde, mais à l'ONU, il y a 6 langues officielles, 2 langues de travail, l'anglais et le français. Voilà. Donc, ne pas oublier cette dimension linguistique, parce que quand on parle de donner accès au patrimoine, encore faut-il le comprendre quand on passe par la langue, hein, parce que sinon, on n'est pas très avancé. Hein. Et une étude sur le fonctionnement multilingue de la communauté économique européenne depuis l'origine a montré le rôle de la traduction pour rapprocher les citoyens de l'Europe. Il était dit « car le sentiment de citoyenneté européenne naîtra de la sensation d'être compris, accepté et respecté dans sa culture ». Alors je pourrais épiloguer longtemps ayant animé pas mal de réunions, aussi bien à l'ONU que dans les institutions européennes quand j'étais directeur de projet. C'est vrai que cette question du rapport à la langue, on a pu faire une journée là-dessus. Voilà. Mais je dirais que dans le contexte européen, on comprend mieux la pertinence de la phrase devenue célèbre, « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Ça, c'est Umberto Eco qui l'avait dit lors d'une conférence qu'il avait donnée le 14 novembre 1993 aux Assises de la traduction littéraire en Arles. Et je crois que c'est un beau résumé, c'est une belle phrase qui prête à méditer. Donc, pour finir sur cette partie, je dirais que l'Europe est davantage un concept politique et un idéal qui s'incarne aujourd'hui plus ou moins bien selon l'analyse que l'on fera de la situation présente à travers les diverses institutions européennes. Mais là aussi, il faut faire attention au regard que l'on porte, selon qu'il est de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a un ambassadeur qui a écrit un petit bouquin très intéressant aux éditions de Jacob, Michel Fouché, et il dit « L'idée européenne vue du dedans fait écho à un processus et à un devenir, alors que l'existence d'une identité politique européenne ne fait pas de doute quand elle est observée de loin. » C'est-à-dire que nous, qui sommes européens de l'intérieur, d'où là, ça marche pas, ça va pas, mais il donne l'exemple des Indiens, des Chinois, etc. Et ça, j'ai pu le voir lors de réunions, discussions, dîners ou déjeuners avec des représentants de missions permanentes des différents pays, notamment asiatiques. C'est vrai bibliothèque, pour eux, ça ne fait pas de doute. L'Europe, elle existe, elle a une valeur culturelle, ils comparent leur patrimoine au nôtre, enfin, sur l'imprimerie, la fabrication du papier, ça existe pour eux, alors que pour nous, on est plus hésitant parfois. Voilà. Sur la politique de l'Union européenne en matière de culture, bon, c'est vrai que c'est, il faut remonter à la création du Conseil de l'Europe en 1949, puisque c'est là que la Seconde Guerre mondiale, donc on a montré l'importance, avec toutes les réflexions qui étaient menées à l'époque sur la nécessité de développer, de reconstruire l'Europe pacifiée grâce à la culture. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Union européenne cherche bien sûr à continuer cela, mais peut-être moins, vous l'avez un peu dit, mais peut-être moins sur l'aspect strictement culturel, même s'il y a quelques initiatives, hein, puisque dans ce monde multipolaire, c'est peut-être plus la dimension économique, financière qui prend le pas sur la dimension culturelle. Je ne vais pas revenir, vous l'avez évoqué, sur le traité de Maastricht, qui effectivement intègre une compétence culturelle européenne. Mais en fait, si on parle de politique de l'Union européenne en matière de culture aujourd'hui, on peut dire, et là je reprends quelques idées que j'ai vraiment été soufflé par un autre chercheur de l'Institut d'études politiques de Grenoble, Philippe Taillet. En gros, il définissait quelques points, il disait que elle caractérisait cette politique de l'Union européenne en matière de culture par la recherche d'une cohésion et même d'une cohérence avec les grandes stratégies de l'Union européenne en matière de croissance, de développement durable. Par exemple, on va développer, et on voit pour les bibliothèques, on va développer une base de données, des choses liées à la biodiversité parce qu'on veut développer. Donc on va faire le lien entre des axes généraux et ce qu'on peut faire à ce niveau. Elle est aussi caractérisée par la diversité culturelle, mais qui renvoie au principe de subsidiarité. C'est-à-dire que normalement, l'Union européenne n'a pas à intervenir pour des choses, des projets qui peuvent être traités au niveau national ou régional ou que sais-je. Donc, c'est important parce que ça veut dire que les projets qui vont être soutenus ont une dimension transversale, si on peut dire. D'accord ? Il faut que ça concerne la compétence, que ça dépasse la compétence d'un seul État et que plusieurs États s'associent entre eux pour coopérer et travailler ensemble. Donc, cette politique en matière de culture, elle vise également à favoriser une structuration de la société culturelle européenne à partir de trois plateformes, l'accès à la culture, les industries culturelles et créatives et le dialogue interculturel. Donc les initiatives sont prises, mais avec ces objectifs et ces relations. Et ces objectifs, on le voit, ils sont pas seulement culturels, ils sont aussi politiques, il faut favoriser le dialogue. Et ne l'oublions pas, ils sont aussi économiques. Parce que à travers la culture, c'est les questions de développement du tourisme, des médias, des industries culturelles. Et sur le numérique, vous pensez bien qu'on n'est pas juste dans un idéal culturel, les enjeux sont énormes. Voilà. Normalement, quand on parle de politique culturelle, ça, on a tendance à l'oublier. On n'est peut-être pas très économiste en tant que bibliothécaire. Souvent, il ne faut pas perdre les ordres de grandeur budgétaires, parce qu'en matière de culture, l'Union européenne a consacré 57 millions d'euros par an. Enfin, elle consacre pour tous les États de l'Union européenne sur le budget culture. La seule ville de Lyon, parce qu'on est à Lyon, c'est à peu près 100 millions annuels. Donc vous voyez, ça donne juste on oublie ce genre de choses. Grenoble, c'est environ 57 millions annuels. Et l'Europe, 27 pays, programme culture, 57 millions par an. Bon. Donc je crois que c'est bon d'avoir ce rappel. Alors évidemment, quand je dis ça, je simplifie un peu, parce que il y a des tas d'autres projets où l'Europe va donner de l'argent et puis ce ne sont pas des projets du programme culture. Par exemple, s'il y a développement territorial, vous avez un très grand projet, on va aider à reconstruire des autoroutes, des tas de choses, et dedans, il pourra y avoir des aspects culturels. Parce que on développe une région. Donc tout dépend, et là il faut se méfier des statistiques, tout dépend comment on compte. Voilà. Le site Europa présente le programme culture, hein, qui est une des initiatives les plus en vue, hein, et précise donc le programme sur de 2007-2013 est doté d'un budget d'environ 400 millions d'euros et qui porte sur les activités culturelles non audiovisuelles. Et ça vise à encourager la connaissance et la préservation des biens culturels revêtant une dimension européenne, encourager la mobilité transnationale des personnes travaillant dans le secteur culturel. On pourrait dire, c'est bien, il faut changer les bibliothécaires, etc. Je crois qu'on en parlera un peu cet après-midi. Encourager la circulation transnationale des œuvres et des produits artistiques et culturels et stimuler le dialogue interculturel. Voilà. Donc sur la prise en compte des bibliothèques par les institutions européennes, je dirais que c'est important de faire un rapide retour historique. Les bibliothèques ont commencé à réellement intéresser la communauté de la Commission européenne à l'époque, hein, fin des années 60, non par rapport à des questions de culture ou d'identité culturelle, hein, ça c'est... mais principalement par rapport au développement des télécommunications, des industries de l'information et de l'innovation, de l'information scientifique technique, de la création des bases de données bibliographiques en ligne, comme on disait à l'époque. Et ce n'est qu'à la fin des années 70 et au début des années 80 qu'émerge une prise de conscience sur l'importance des conditions d'accès à l'information et aux services fournis avec la mise en place d'infrastructures de réseau. Hein. Je ne sais pas si peut-être il n'y a pas beaucoup parmi vous qui ont parlé du réseau Euronet, hein, c'était une grande évolution. La multiplication des services d'information et le développement d'un marché en ligne de l'information. Et c'est seulement en 1984, et je m'en souviens parce que j'y participais, qu'il y a, après la résolution du Parlement européen, dite résolution Schwenke que vous avez évoquée, hein, c'est après ça qu'il y a eu l'organisation en novembre 1984 à Luxembourg d'un symposium sur l'impact des nouvelles technologies sur la gestion et la coopération des bibliothèques. Et de ça est venu en 85, un an après à peu près, l'adoption par le Conseil des ministres des communautés européennes d'une résolution concernant la collaboration entre bibliothèques dans le domaine de l'informatique. On ne parle pas d'identité culturelle, on parle d'informatisation là. Mais pourquoi ? Évidemment, pourquoi ? Parce que il fallait faire évoluer, avoir enfin en Europe des services modernes de bibliothèques, une normalisation qui permette de faciliter la disponibilité des catalogues et bibliographies nationales sur support informatique. Hein, on est dans les années 70, hein, attention. Localiser, hein, on parlait de catalogues, hein, collectifs, de localiser les fonds des bibliothèques. Favoriser le développement de la formation professionnelle, on en parlait déjà à l'époque, en adaptant aux nouvelles exigences techniques. Donc je renvoie dans le BBF, il y avait en 88 un article qui faisait un bon résumé par Ariane Lyon qui s'occupait de ça à la Commission à l'époque. Et ensuite, suite à toutes ces études, en 90-98, les programmes de la Commission européenne pour les bibliothèques tentaient de concrétiser par des lignes d'action assez précises, ont défini les axes qui avaient été repérés dans les études préliminaires, on a développé toute une série de travaux, d'études qui ont donné différents programmes. Et il faut voir qu'à la fin des années 70, ce qui marquait les professionnels, c'était le décalage avec les États-Unis et le Canada, qui disposaient déjà de réseaux de coopération de bibliothèques, hein, OCLC, UTLAS, Arling, WLN, hein, Washington Library Network, déjà très développés, avec des bibliothèques dont la gestion était informatisée, alors que c'était relativement rare en France et en Europe en général, à part peut-être le Royaume-Uni, enfin il y avait bien sûr quelques initiatives dans certains pays, mais on était au début de l'informatisation des bibliothèques, de leur coopération et de leur adaptation aux nécessités et défis de la société de l'information. C'est à ce moment-là, on parlait beaucoup des OPAC, on a un public access catalogue, de l'interconnexion de systèmes de bibliothèques, de la nécessité de mettre en œuvre des prêts interbibliothèques à un niveau européen, etc. Bon, après cette époque, une pionnière en matière d'informatisation des bibliothèques en France, bon, il y avait aussi la généralisation des bases et banques de données en ligne. Hein, il faut voir que ces projets étaient soutenus à la fois par la Commission économique européenne, parfois par le Conseil de l'Europe, hein, qui est une institution de coopération, mais pas politique ou décisionnelle, même parfois par l'OTAN aussi, à cause de l'information scientifique et technique. Et pour aller très vite, de là, on arrive maintenant à l'avènement du réseau Internet, le développement du web, les premiers navigateurs, les moteurs de recherche, la généralisation de services de toutes sortes, jusqu'au développement des réseaux numériques dits sociaux, qui ont changé la donne et reconfigurent le paysage dans lequel nos bibliothèques interviennent. Donc on est tous, bien sûr, toutes nos bibliothèques sont concernées par ces évolutions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des projets. Hein, je sais que après il y aura une présentation de l'Européana, d'autres choses. Donc, je fais l'impasse sur tous ces projets qui sont développés, qui sont importants. On pourra en parler aussi avec les questions. Mais disons qu'il y a une période où il y a le concept de bibliothèque hybride où on mêle l'imprimé et le numérique. Et maintenant, la question qui se pose, c'est le passage à une nouvelle étape où, à la limite, c'est le tout numérique, comme on peut le voir, par exemple, à la bibliothèque de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Ils ont carrément dit, plus d'abonnement papier, fini, bon, et puis tout est que numérique. Dans leur cas, dans leur contexte, ça se justifie assez bien, parce qu'ils ont des chercheurs dans le monde entier, partout, ils ont accès, ils ont les ordinateurs, les réseaux, tout ce qu'il faut. Et puis, la production en domaine scientifique médical, elle est numérique, et il y a même beaucoup de périodiques, la plupart, qui n'existent même plus sous forme papier. Donc, dans ce cas-là, ça peut se comprendre. Si j'avais pris cette décision-là pour la bibliothèque des Nations Unies, qui est surtout une bibliothèque en relations internationales, droit international, droit de l'homme, désarmement, etc., ce serait catastrophique, parce que quoi qu'on dise, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles du tout sous forme numérique, on l'oublie un peu vite. Hein. Voilà. Donc il faut toujours, une clé, c'est le contexte. Jamais oublier le contexte. Donc aujourd'hui, beaucoup parlent de bibliothèque numérique, en disant qu'il n'y a plus besoin de bâtiments de bibliothèque. Il y a récemment sur un blog assez connu d'un consultant spécialisé dans l'édition, Mike Satchkin, il a fait sensation après une conférence qu'il a donnée à Montréal en avril, hein, c'est pas bien vu, en disant que pour lui, il n'y avait plus besoin de bâtiments de bibliothèque. Alors ça, vous imaginez devant les Québécois. Mais il a quand même rajouté qu'il y aura toujours besoin de bibliothécaires. Donc ça corrige un peu. Il a dit, on va vers un monde fait principalement de livres électroniques, je traduis, fully booked world. C'est-à-dire qu'un monde où il restera bien sûr des livres imprimés, mais de manière exotique et liée à des buts bien précis. Alors là-dessus, il y a eu toute une série de discussions avec notamment un professionnel de bibliothèque, Gary Price, qui a dit, mais de quoi vous parlez? De quelle bibliothèque vous parlez? Parce que moi, c'est pas la réalité que je connais. Et il a dit, ben moi, je parle de consumer libraries. Et les consumer libraries, c'est une bibliothèque qu'on va au coin de la rue dans son quartier, on prend le dernier roman policier et tout, et puis voilà quoi. Il y a tout un débat, je passe vite, et pour finir, il a dit, mais attention, moi je parle que de consumer libraries, en fait des public libraries américaines, mais pas du tout des autres, parce que les bibliothèques, bien sûr, bibliothèques de recherche, bibliothèques universitaires, on aura toujours besoin. C'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'il faut quand même regarder un peu plus derrière les formules coup de poing ce qui se cache. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut nier le fait que le numérique prendra de l'ampleur, mais il faut le relativiser. Tout ça pour vous dire que la définition des bibliothèques de demain reste certainement à construire. Elle pourra se décliner selon des modèles différents, avec l'évolution des services numériques et la manière dont ils seront proposés par la collectivité publique et ou par le marché sera déterminante par rapport aux bibliothèques. Alors, je voudrais, pour finir là-dessus, dire que aujourd'hui, c'est par rapport à l'Europe et aux bibliothèques, dans quel domaine on doit intervenir. Moi, je crois que les enjeux les plus importants, c'est par rapport aux bibliothèques numériques. Alors, bien sûr, il y a des grands projets unificateurs comme Europeana, et c'est bien. Mais les questions qui se posent aujourd'hui en matière de bibliothèque numérique sont principalement d'ordre juridique et politique, plus que d'ordre technique, on y arrive, on commence à trouver des standards, etc. Mais là où vraiment les bibliothèques doivent faire attention, c'est par rapport à ça, parce que Si on voit l'évolution aujourd'hui du réseau, du web même, encore récemment, vous l'avez peut-être lu dans la presse, Apple qui annonce son serveur informatique en nuage, si j'essaie de traduire en français, le cloud computing, ça nous mène directement vers ce que Jérémy Rifkin définissait, développait déjà, décrivait dans son ouvrage « L'âge de l'accès », hein, c'était en 2000, hein, déjà 11 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toute une série de prestataires qui développent une stratégie marketing. Moi, je dis de façon un peu triviale que c'est la stratégie du dealer, hein, c'est-à-dire que la première dose est gratuite. C'est ce qu'on voit avec l'information sur les réseaux. Regardez le iPad. C'est quoi l'iPad? C'est un fabuleux objet pour vendre de l'information payante, en fait. Objectivement, c'est ça. Si vous voulez que ça vous serve à quelque chose, vous êtes obligé de passer à un modèle d'abonnement, de souscription à une série de services. Que l'on comprenne bien. Je dis pas que c'est bien ou mal, hein, c'est pas ça mon problème, mais c'est cette évolution-là, la marchandisation de l'information. Le problème, c'est jusqu'où elle va et sur quel contenu elle s'exerce. C'est là où il y a problème. D'accord? Évidemment, c'est pas évident non plus de trouver un modèle économique rentable sur le long terme. Et on voit bien, si on analyse les services d'accès à l'information en ligne, il y a plein de modèles qui sont développés. J'ai l'occasion de travailler dans le cadre d'autres projets. Et c'est difficile de trouver un modèle économique qui fasse que ceux qui investissent quand même s'y retrouvent et qu'en même temps, ça se fasse pour le bénéfice aussi des lecteurs. Donc il faut à la fois des contenus gratuits, des contenus qui c'est justifié qu'ils soient payants, mais la question c'est aussi qui paye et comment on paye. Les bibliothèques universitaires, en fin de compte, quand elles s'abonnent à des bouquets de services portant le cairn ou bien d'autres choses, elles font payer, mais la collectivité paye, mais les étudiants, bon, ils ont payé leur droit d'inscription, après ils ont accès à tout. Mais on peut aussi avoir d'autres modèles où chaque fois qu'un étudiant va aller sur un service, il va payer à la page qui s'affiche. C'est pas la même chose. Ça a des conséquences. D'accord? Bon, moi je suis peut-être un bibliothécaire vieux jeu, old fashion, comme on dit, mais je continue profondément à croire à l'utilité et à la nécessité des bibliothèques, aussi bien publiques qu'universitaires, spécialisées nationales, pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Et je crois que l'évolution de nos sociétés nécessite qu'on n'oublie pas de préserver le patrimoine culturel et notre mémoire, et comme pour reprendre la formule de Roger Chartier, il faut continuer à collecter, protéger et recenser les objets écrits du passé. Il faut y donner accès en évitant de tout réduire à la logique marchande non régulée. Alors, aujourd'hui, on peut dire que le principe de subsidiarité dans l'Union européenne n'a a priori pas à intervenir pour aider une bibliothèque locale dans un pays européen, sauf dans le cadre d'un programme d'aide en développement territorial particulier. En revanche, elle a vocation à soutenir des projets qui répondent aux critères évoqués précédemment à propos du programme culture. Et les projets de numérisation à grande échelle sont vraiment dans cette logique. Je insisterai juste pour revenir là, puisqu'on est sur le point, des points très concrets quant à la numérisation des fonds de la bibliothèque, sur vraiment des points très précis. Sur la numérisation des fonds de la bibliothèque, je pense qu'il faut faire très attention. Je ne vais pas revenir en détail sur Google Book Search, hein, Google Recherche de Livres, hein, et sur les contrats qui sont passés et comment. Mais c'est vrai qu'il faut être très attentif à ça. Je vous renvoie au texte de Darnton, notamment Apologie du Livre, hein, où il met en garde en disant « Faisons bien attention, il ne faut pas faire n'importe quoi ». Je renverrai aussi à 9 principes de conduite qui sont proposés par l'Association américaine des bibliothèques de recherche, l'Association of Research Library, concernant la numérisation. En disant que, bon, on peut avoir des accords partenaires privés, comme le rappelait d'ailleurs très bien Ghislaine Chartrand dans un texte publié par la DBS, mais ceci ne doit pas se faire n'importe comment. Par exemple, si on a, une entreprise privée numérise votre fonds de bibliothèque, elle le fait à quelles conditions? Tout ça, c'est expliqué dans les principes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a qu'elle qui vend? Et pendant combien de temps elle a l'exclusivité? 25 ans, comme le propose un accord de Google, ou, l'ARL, ils disent pas plus de 5 ans. Oui, ce sont des choses comme ça. Comment les données personnelles peuvent être utilisées quand quelqu'un se connecte? Enfin, il y a toute une série de principes. Moi-même, je ne vais pas en détailler, j'ai été bien sûr contacté pour la numérisation des archives de la Société de l'ASN, vous y pensez. Mais ce qui m'était proposé, ça revenait à confisquer la mémoire institutionnelle internationale, ni plus ni moins. Moi, j'ai dit, je suis OK pour qu'on travaille ensemble, mais pas sur ces bases-là. C'est tout. Il faut faire attention. Oui. Le libre accès aux publications scientifiques, c'est un point essentiel. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, le débat sur le libre accès ou open access. Henri Flair, d'ailleurs, vient très récemment de clarifier sa position et sa stratégie en reconnaissant que le modèle actuel avec l'abonnement aux publications scientifiques ne garantit plus l'accès, n'est pas durable. Et ça, c'est très important, et j'espère que ça va être relayé par des tas d'organisations professionnelles, dont Libère, Eiffel et d'autres. Mais l'accès ouvert, c'est essentiel. Moi, je me battais quand j'étais à Sciences Po Grenoble avant l'ONU, là-dessus, je disais, les chercheurs doivent donner accès aux documents qu'ils produisent dans le cadre de la recherche, et je suis ravi de voir que pour la conférence, on fait signer aux personnes qui parlent un papier disant, vous acceptez ou pas que ce soit, alors on n'oblige pas, mais on devrait obliger. Je pense que si il y a un certain nombre de cas, peut-être pas celui-là, j'en sais rien, mais on devrait oublier, dire que ça devient du domaine public, c'est, on reconnaît la paternité, mais on n'empêche pas la diffusion, on ne la limite pas de manière payante. C'est produit grâce à la collectivité, et au fond, il n'y a pas de raison. La gestion des droits du numérique, c'est aussi un autre point sur lequel il faut faire très très attention. Je pourrais en parler peut-être s'il y a des questions, mais il faut vraiment faire très attention. Si vous prenez une tablette comme ça, c'est pas mal. Bon, une tablette électronique, ça commence à être un peu au point. Il faut voir derrière toutes les contraintes qu'il y a et qu'est-ce qu'on accepte. Alors, les DRM, les digital assets, ça peut être catastrophique pour l'évolution du numérique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des systèmes de protection possibles, mais plus malins, et qu'ils ne soient pas tant bloquants pour l'utilisateur. Pour très, très bien garder l'origine, savoir d'où ça vient, ne pas empêcher que ça marche que sur cette machine et pas d'autres, etc. Le statut deviendra féminin, ça c'est aussi, c'était même un des grands points dans le procès avec Google, je ne veux pas développer, mais c'est les œuvres dont on ne sait plus qui a le droit d'auteur. Alors, c'est dans le domaine public, c'est quoi? Google nous disait, si personne ne dit rien, c'est à moi, quoi. En gros, je simplifie, mais en gros, ça revient à ça. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Moi, je me souviens, quand je dirigeais le projet Manon, le modèle numérique, je disais, aux éditeurs, on y avait éditeurs, universitaires, bibliothécaires, si vos documents sont épuisés, au nom de quoi, on ne peut rien faire, quoi. Mais si au nom de quoi, ça veut dire qu'il y a un industriel, un seul qui en devient propriétaire, là on a tout perdu. Que ça devienne dans le domaine public, avec des réserves ou autre, mais il faut définir des politiques logiques. Donc pour finir, je dirais que je conclurai par quelques points. Un, je pense qu'il faut continuer à faire l'éloge de la bibliothèque, y compris en tant que bâtiment physique, qui est un lieu social, qui, c'est pas seulement que ça va donner accès à des collections, des connaissances, ça peut avoir des tas de fonctions. Là, j'ai pas le temps de revenir sur les publications passionnantes qui ont été éditées par les presses de l'INSEP sur le problème de modèle de bibliothèque, dernier bouquin sur la comparaison du modèle public laboureux des bibliothèques françaises, mais il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais, ce qui est important, c'est de voir que si on a une vision un peu dans le futur, dans l'avenir, prospective plutôt que futuriste, les bibliothèques, elles ont leur place. J'en suis convaincu, simplement, il faut évoluer avec son temps, il faut prendre en compte le numérique, mais il faut prendre en compte des tas d'autres aspects. Je dirais qu'il faut aussi faire un éloge de la lecture, ça paraît fou et vieux jeu de dire ça aujourd'hui, mais la lecture, c'est un instrument d'éducation important, et ça construit les personnes. sans prendre les mesures de ce lequel dans ce bouquin. On a tendance aujourd'hui à penser les bibliothèques dans le cadre de l'évaluation de politiques publiques nécessaires. Ben, on prend, le mieux c'est pareil, on a des audits tout le temps, on donne des tableaux de chiffres en disant on a eu tant d'entrées à la bibliothèque, donc on justifie notre existence, tant de prêts, etc. Moi, j'en ai vu plein d'auditeurs, des dizaines. J'ai moi-même été auditeur pour des... Et je disais, mais attendez, comment vous comptez tout ça? Quel est le qualitatif? Moi, j'ai eu des remerciements officiels par des représentants de missions permanentes, des ambassadeurs, dans des réunions. Ils disaient, grâce à votre bibliothèque, j'ai eu des étudiants de tel pays, je ne citerai pas pour dresser une réserve, qui ont pu faire tel et tel travaux. Si vous n'y avez pas été là, ce n'est pas possible. Les pays en développement, les pays qui ont peu de moyens, la bibliothèque, c'est indispensable. Ils ont, pour discuter des thèses, tout cela, qui trouvent l'information, ils n'ont pas tout ce moyen. Sinon, il n'y aura que les centres de documentation des missions très riches qui peuvent s'en passer. Il y a plein de raisons. Mais si j'avais un dernier conseil à donner, je dirais que la communication, c'est un mot à la mode, le marketing, etc. aujourd'hui, mais je dirais que les bibliothèques, nous ne sommes peut-être pas suffisamment, il y a eu des efforts, en effet, mais on ne sait pas communiquer. On fait des choses fabuleuses, mais on ne sait pas les communiquer. Et je vous assure qu'il faut faire un effort là-dessus. Moi, je l'ai vu quand je suis arrivé à la bibliothèque de l'ONU en 2003. 2003, j'arrive, je croise quelqu'un dans mon couloir, c'était un garde. Il était là depuis 10 ans. Il ne savait pas qui j'étais, je venais d'arriver. Il me dit, on a parlé de la bibliothèque, il paraît qu'il y a une bibliothèque. Où est-ce qu'elle est ? Dans le Palais des Nations. Et après, ça paraît fou, ça s'est renouvelé plein de fois, des gens qui connaissaient, ils étaient là depuis 10 ans, 15 ans, certains disent, je sais que ça existe, je sais pas où dans le bâtiment, dans quelle aile, alors c'est vrai que c'est long, c'est grand, le Palais des Nations, mais quand même, et je dis, il y a quand même un problème, là. Il faut communiquer, on a développé toute une série d'actions, de support, pour changer, dire c'est pas, on a tant de clients, la bibliothèque est tant de clients, mais on va vers. Nous, on faisait des tables de présentation avec ordinateur et tout, on pouvait faire des prêts de bouquins devant la cafétéria. Bon, ça paraît fou, mais ça y est, on a un succès. On a identifié par domaine les chercheurs, tous les chercheurs qu'il y a dans ces institutions européennes, quand on avait des bouquins sur le thème des transports, de la pollution de la mer ou que sais-je, on leur envoyait la liste des dernières acquisitions sur ce domaine. On voyait monter le prêt, mais en une semaine, on avait 100 prêts, rien par rapport au message, quoi, c'était clair. Des tas de choses comme ça. On a développé un motto, une sorte de devise, ask a librarian. Demandez à save time, ask a librarian. Vous gagnez du temps, demandez à un bibliothécaire qui pourra vous renseigner. Enfin, je pourrais multiplier les choses. On a fait des knowledge pointers, parce que ça fait moderne de parler de connaissances, même si, à mon avis, c'est parfois une escroquerie. En fait, c'était des fiches pratiques qui visaient à faire connaître les différents services fournis, comment interroger le catalogue de la bibliothèque, les bases de données en ligne, etc., etc. Ça a été extrêmement productif, ça a donné de la visibilité. Notre visibilité, c'est le fait que, comme vous l'avez un peu dit, il y avait à la fois dans la bibliothèque trois fonctions. Activité culturelle, j'ai quand même animé en 7 ans, 10 mois, près de 400 événements culturels, c'est-à-dire expositions, présentations de films, conférences culturelles, grands spectacles aussi, enfin des tas de choses différentes, et ça a très très bien marché. On a aussi organisé à l'intérieur de la bibliothèque, entre midi et deux, des petites conférences sur des thèmes du moment qui intéressaient les gens. Mais ça, par rapport aux droits de l'homme, Roosevelt, Eleanor Roosevelt, la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., avec des gens en s'appuyant sur des missions permanentes. Et ça change la vision d'une bibliothèque. On dit que c'est pas juste le dépôt de livres, le coffre à livres, comme disait Denis Varro, mais c'est également une institution ouverte, accueillante, qui propose, qui a une vision globale. Le musée, c'était pareil, le musée de la SDN, ça a permis de donner une grande visibilité. Vous rappeliez l'inscription au registre de la mémoire mondiale, ben c'est pareil, ça, on a fait des actions autour de ça. J'ai eu la visite de Ban Ki-moon, qui a passé trois quarts d'heure, presque en tête à tête, avec un dimanche après-midi, pour visiter le musée. Donc ça change la vision. Et je crois que les bibliothèques ont besoin de faire ces efforts-là, et je suis ravi de voir que fin 2010, c'est un petit ouvrage de Jean-Philippe Accard, publié par les presses de l'ANSI, qui s'intitule Communiqué, à l'adresse des bibliothécaires et CRS. Je crois que c'est très très important. Et dans ce petit ouvrage, il y a d'ailleurs un passage sur la nécessité de lobbying par rapport aux institutions européennes. Et je crois qu'il faut plus attendre de ce côté-là que strictement des retours financiers directs. C'est-à-dire, attention, sur tel et tel point, il faut prendre position. Sur les archives numériques, sur les œuvres, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, sur les œuvres orphelines, etc. Nous, on a une idée, on a un point de vue, on le dit. Donc il y a tout un travail important qui doit être fait par les bibliothèques. C'est ce sur quoi je voudrais vraiment insister. C'est-à-dire, les bibliothèques doivent se faire connaître, elles doivent favoriser la convergence et le rapprochement, et elles le font déjà à travers les associations, entre musées, archives et bibliothèques. Ces trois pôles ont à travailler ensemble et non pas en opposition, de plus en plus, à converger. Voilà. Donc, pour finir, nouvelle conscience européenne, conscience d'une communauté de destin, pour reprendre la formule d'Edgar Morin. L'ancienne identité européenne se fondait sur la certitude de posséder en exclusivité raison et civilisation. La nouvelle identité devrait se fonder sur la tradition critique et autocritique de la raison et comprendre l'ambivalence de la civilisation née en Europe afin, et c'est ça qui est important, de s'ouvrir à la pluralité des cultures du monde. On parle d'Europe, mais il faut s'ouvrir à la pluralité des cultures du monde. Et je crois que c'est ce à quoi les bibliothèques doivent continuer à travailler, en donnant accès à ces cultures européennes ou autres, aussi bien sous forme imprimée que numérique, selon les situations, et à travers des tas d'autres initiatives, conférences, etc. Voilà. J'ai pas vraiment abordé, sauf par un point, la question des réseaux numériques dits sociaux. C'est une question importante pour les bibliothèques, on va en parler une autre fois. Ça mériterait une journée d'études. Et puis, comme j'ai vu qu'il y avait dans les intervenants des personnes qui venaient d'Alsace, j'ai repéré dans une revue de l'Observatoire des pratiques culturelles, une phrase que je partage, parce que j'en partage vraiment la conclusion. Il a dit, le numérique est certes un défi majeur qui amène les bibliothèques à se recentrer sur le service à l'usager pour leur permettre des découvertes culturelles face au flux continu du contenu en ligne, mais le bâtiment restera un lieu central pour développer et mener à bien ses nouvelles missions. En effet, face à la complexité du monde, pour éviter le repli communautaire ou l'isolement, la bibliothèque peut être un des lieux pour se rencontrer, comprendre et construire l'avenir. Pour ce faire, les bibliothèques devront garder les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les nuages. Voilà. J'aime bien ce texte, il faut quand même que je vous donne le nom de l'auteur. Je sais pas comment ça se prononce, il y a Gallop. Xavier Gallop, qui travaille dans une bible. Gallo, merci. C'est dans l'Observatoire, la revue des politiques culturelles. Médiathèque en mutation, la pied sur terre, la tête dans les nuages. J'aime bien ça parce que ça recentre bien l'ensemble de l'esprit du propos que je voulais développer. Je vous remercie de votre attention.